Salut, moi c'est Mila. Ma maman, elle s'appelle Dorothée. Elle va vous raconter toute l'histoire.
La Voix des Mamans, le podcast. Entretien.
Bienvenue sur La Voix des Mamans.
Parce que la maternité est une expérience unique et bouleversante. Parce qu'élever un enfant est aussi passionnant qu'épuisant. Parce que la parole est la meilleure des thérapies. Depuis 3 ans, moi, Dorothée Most, j'accompagne en tant que coach au quotidien, mamans et enfants, dans leur parcours, la gestion de leurs angoisses, de leurs joies et de leurs défis. Aujourd'hui, j'ai décidé de donner la parole à des mamans comme vous et moi. Et oui, on ne naît pas mère, on le devient. On devient mère un jour et on le reste pour toujours. Des guerrières, des combattantes, des vulnérables, fortes, fragiles. Bref, je vous invite à la rencontre de femmes vraies, au parcours unique, qui à travers nos entretiens vont se raconter et partager leur histoire, pas toujours comme les autres, de leur maternité, bref, l'histoire de leur vie. La Voix des Mamans abordera sans phare ce que l'on cache, ce que l'on ne dit pas toujours et que l'on garde trop souvent au fond de soi. Notre partage, celui que nous allons construire ensemble, sera notre force. Rire, pleurer, crier, respirer, vivre, vous l'aurez compris, je vous donne rendez-vous pour un tsunami d'émotions et de vérité. Ce podcast est disponible sur l'ensemble des plateformes pour être écouté, réécouté et partagé à tout moment. Alors bonne écoute. Bonjour à tous et on se retrouve pour un nouvel épisode pour La Voix des Mamans. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir de nouveau un papa, puisqu'en ce moment, c'est la mode. Alors, c'est pas forcément pour une cause très positive, mais c'est pour une histoire, j'en suis sûre, qui est extrêmement forte quand on va l'entendre, l'écouter, la manger même, cette histoire. Et je suis très honorée qu'il me fasse l'honneur de participer à ce podcast. Il s'appelle Yanis. C'est un papa qui, je pense, a énormément de choses à nous raconter sur son parcours, sur l'amour qu'il porte à ses enfants surtout, et puis sur son besoin vital et vraiment sincère de vouloir revoir ses enfants. J'en dis pas plus, mais croyez-moi, c'est une histoire très forte. Bonjour Yanis et bienvenue.
Merci, bonsoir à tous, merci beaucoup.
Yanis, la première question que je voudrais te poser, comment tu te sens aujourd'hui ?
On va dire que je me sens en même temps très entouré, très soutenu. En même temps, c'est très dur pour moi psychologiquement aussi parce que le fait d'être passé à la télé, le fait d'avoir essayé de médiatiser un petit peu mon histoire, ça m'a replongé dans, on va dire, dans mes travers, dans le sens, ce que je veux dire par là, c'est dans mon malheur, on va dire plutôt. Et du coup, c'est vrai que je suis un peu déchiré entre les deux, entre l'espoir en même temps la tristesse qui va quand je vois ces photos, quand je vois les vidéos, quand je vois tous les messages de soutien que j'ai pu avoir, etc., quand je vois des vidéos passer, etc. C'est vrai que c'est compliqué, donc on va dire que je suis entre les deux. Je vais pas dire que je suis au fond du trou, parce que non, mais je suis pas non plus du tout au top de ma forme.
Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas et pour ceux qui veulent en savoir plus, évidemment on va rentrer dans le vif du sujet, mais en gros, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as souhaité témoigner et médiatiser ton histoire? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie de papa?
Alors, en fait, du coup, moi, je m'appelle Yannick, j'ai 30 ans. Et du coup, j'ai 2 enfants, j'ai une petite fille et un petit garçon. Donc, j'ai ma fille qui s'appelle Lana, qui est née en 2013, et mon fils Liam, qui est né en 2016. Donc, ma fille va faire 10 ans cette année, et mon fils a fait 7 ans au mois de janvier. J'étais en couple avec leur maman pendant 5 ans, et je me suis séparé, du coup, il y a 6 ans de ça, en 2017, de mon ex-compagne. Suite à ça, ça a été un peu compliqué. La séparation a été compliquée parce qu'elle voulait pas, parce que on va dire que notre couple était pas du tout dans une belle posture. Donc c'est moi qui ai mis fin en fait à cette relation, mais je voulais vraiment en fait rester dans des bons termes, surtout pour mes enfants, parce que je voulais vraiment que leurs parents s'entendent bien et je voulais absolument pas qu'il y ait de conflit pour eux, parce que j'ai déjà vécu ça, moi, quand j'étais jeune. J'avais pas du tout envie que mes enfants vivent ça. Je me suis mis en couple plusieurs mois après. Je me suis remis en couple avec un homme. C'est pas le sujet. C'est pas voilà.
Et c'est ta vie personnelle, en fait.
Dire, et... mais,
Voilà, ça change pas le papa que tu étais, quoi, je pense.
Exactement, ça ne change pas, et puis ça ne, ce n'est pas sur ça que j'ai envie de m'étaler, mais je ne suis pas séparé pour mettre avec un homme, je me suis séparé, et après, ben, je décide de mettre en couple avec un homme, on va dire que j'ai voulu explorer d'autres horizons, et j'ai préféré que ça, donc ça, c'était un choix personnel, mais voilà, je suis toujours resté présent pour mes enfants, j'avais mes enfants, j'avais des droits, en fait, de visite un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, donc qui ont été... statué par un juge, hein, par le JAP de Toulouse. Donc, ça a duré 3 ans, puisque jusqu'en fin 2019, hein, on va dire que voilà. Et en fin 2019, mon ex m'a émis l'idée par SMS qu'elle souhaitait rentrer dans son pays d'origine parce qu'elle était slovaque d'origine. Slovaque d'origine. Et moi, bien évidemment, j'ai dit non, hein, j'ai refusé catégoriquement. Donc, moi, dans ma tête, c'était une idée comme ça. Dans ma tête, jamais une seule seconde, j'aurais imaginé que ça pouvait se produire. En janvier, donc j'ai appris ça en mars, mais en janvier 2020, donc vraiment quelques mois après, pour être précis, quelques semaines avant le confinement international, et en France aussi, du coup, j'ai appris qu'en fait, elle était partie sans mon accord à l'étranger, dans son pays d'origine, parce qu'au début, je ne savais pas trop. En fait, on a vite trouvé dans son pays d'origine, sans mon accord. Donc, elle a enlevé mes enfants illégalement et qu'elle les a ramenés à l'étranger. Donc, voilà un peu pourquoi.
Vos enfants, ils n'avaient rien vu venir.
Mais personne n'est au courant. Bien, je veux dire, personne n'est au courant. Personne. Il n'y avait aucun signe. Tout a été très bien ficelé. C'est-à-dire que j'ai appris plus tard que l'école avait été prévenue que mes enfants avaient la varicelle alors qu'ils l'avaient déjà eue. Mon ex, elle faisait tout ce qui était onglerie esthétique à domicile, donc elle avait beaucoup de clients qui la suivaient sur les réseaux sociaux, dont des clients qui me connaissaient potentiellement, donc elle a simulé de s'être cassé le bras avec une attelle, elle a une fausse attelle pour simuler un arrêt maladie, dire qu'elle était en arrêt maladie, et elle est partie du jour au lendemain en voiture, même pas en avion, elle a pris le strict minimum, elle est partie en voiture dans son pays.
Et tu t'en es rendu compte au bout de combien de temps? En fait, parce que du coup, toi, tu voyais tout le temps tes enfants. Donc,
ce qui s'est passé, c'est que dans les vacances du mois de février, donc à cette période-là, c'était exactement à cette période-là. C'est-à-dire que là, c'est exactement pratiquement à quelques jours près, parce que ça s'est passé le 5 mars, c'était un jeudi, donc à 2-3 jours près, c'était exactement à cette période-là. Et en fait, je devais les avoir pour les vacances d'hiver, donc de février, et j'avais demandé à échanger la semaine. Parce que j'avais un problème au travail, donc j'avais demandé à échanger la semaine. Chose qui, de base, ne posait aucun problème d'habitude. Des fois, on s'arrangeait, comme tous les parents, des fois, s'arrange en fonction, on va dire, des emplois du temps de chacun. Et elle a commencé à littéralement péter un câble par SMS. J'ai pas compris. Et je me suis dit, elle va se calmer, elle va changer d'avis. Donc, je lui envoie des SMS, elle ne me répond pas. Et du coup, je l'appelais. Et elle ne me répondait pas, mais je m'étais dit dans ma tête, elle s'est énervée, peut-être qu'elle a été, elle s'est braquée, elle m'a bloqué. Enfin voilà, dans ma tête, ça arrivait des fois où elle s'énervait, puis elle me bloquait, puis au bout de 3 jours, elle me débloquait. Donc, il n'y avait rien, si tu veux, d'alarmant moi, mais ça me paraissait quand même bizarre. Donc, je l'appelais, et en fait, ça allait toujours en messagerie. Donc, j'avais compris qu'elle m'avait bloqué. Et quand je lui envoyais des SMS, les SMS étaient verts au lieu qu'ils soient bleus, puisqu'on avait des iPhones. Donc, je ne comprenais pas. Et du coup, quand je suis donc la première semaine, cette semaine-là, cette fameuse semaine d'aujourd'hui, c'était la reprise. Donc, c'est la rentrée. Je les avais le week-end de la reprise. Et là, je devais les récupérer. Et en fait, le jeudi, donc le jeudi 5 mars, c'est là où j'ai eu une personne, j'étais en déplacement dans une autre ville. Et c'est là où, en fait, j'ai eu un message d'une personne, d'une amie à moi, d'une connaissance qui était cliente chez mon ex et qui m'envoie un message en me disant « Bonjour Yannis, est-ce que tu vas bien? Il faut que je te parle. » Là, déjà, rien que ce message, j'ai compris qu'il se passait quelque chose parce que c'était trop bizarre d'avoir un message comme ça, je ne comprenais pas.
Mais donc, non, excuse-moi Yannick, je te coupe, mais tu avais tes enfants au téléphone de base la semaine?
Alors, ça dépendait. Des fois, oui, des fois, non. Ça dépendait des périodes. D'accord. Ça dépendait. Moi, j'essayais, en fait, comme j'étais obligé de passer par elle pour avoir à chaque fois des contacts, on se parlait régulièrement, on s'appelait, mais on va dire que j'essayais d'éviter les contacts avec elle. Et donc j'avais mes enfants quand même régulièrement, mais j'essayais de trop avoir de contact avec elle parce qu'elle était un peu toxique, on va dire. Donc je faisais attention parce que ça partait souvent très vite en live, ça partait très vite en reproche, etc. Donc, j'essaie vraiment de garder, si tu veux, les droits légaux, de voir mes enfants. Tu vois ce que je veux dire? Mais souvent, j'appelais des fois pour leur demander des nouvelles, avoir au téléphone. Mais c'est vrai que je n'avais pas de règles précises. Et pendant ces vacances-là, ça a commencé à m'alarmer. Mais si tu veux, quand tu ne t'imagines pas une seule seconde qu'elle est capable de faire ça, moi, dans ma tête, je ne me suis pas du tout imaginé une seule seconde. Et je le dis, hein, je l'assume. Peut-être trop naïf, trop bête de ma part d'avoir pensé une seule seconde qu'elle était partie. Pour moi, bon, elle faisait un caprice, elle était énervée et puis ça allait se terminer comme ça. Donc, cette personne me contacte. Tu me dis si tu as des questions au milieu.
Pas du tout, non, vas-y, continue, c'est très clair. Vas-y.
Ok.
Cette personne de contact, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Voilà, donc je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, je lui dis, bien sûr, je t'appelle tout de suite. Je me rappelle, j'ai reçu le message à 21h05. Je lui dis, appelle-moi, on s'appelle tout de suite, donne-moi ton numéro. J'appelle, et je me rappellerai toute ma vie, j'étais allongé dans le lit, dans mon lit, dans ma chambre d'hôtel. J'étais allongé, j'étais crevé de ma journée. Et je lui dis, salut, comment ça va et tout ça. Et là, j'entends, elle me dit, ça ne va pas du tout, il faut que je te dise quelque chose. Elle s'effondre au téléphone. Là, j'ai compris tout de suite. Elle me dit, elle est partie. Je dis, comment ça, elle est partie? Elle me dit, oui, elle est partie avec les enfants, elle est partie. Elle me redit ça, je dis, mais comment ça, elle est partie? Elle me dit, en fait, elle est partie de France, elle est partie à l'étranger avec tes enfants. Et là, sur le moment, là, j'ai ma respiration qui s'est littéralement mais arrêtée net. Je me rappelle, j'arrivais plus à respirer. Ma première pensée, c'est pas possible.
Ouais.
Je me dis, c'est pas possible. Je me dis, non, c'est pas possible.
C'est un cauchemar.
Oui, puis je me dis dans ma tête, c'est pas possible. Je me dis,
et elle n'a pas pu faire ça, quoi. C'est pas humain.
Non. Ouais. Voilà, je me dis, non, elle n'a pas pu faire ça. Je me dis, non, mais c'est pas possible, elle n'a pas pu faire ça. Pas elle. Elle qui voulait tellement que soi-disant, hein, apparemment, puisque vu les actes, voilà, mais qui voulait tellement que j'ai une relation avec mes enfants, que ces enfants aient une figure paternelle, que je les vois, que je fasse des choses avec eux. Je dis, c'est pas possible, elle a pas pu faire ça. Elle me disait qu'elle repartirait jamais dans son pays d'origine, que c'était la misère, qu'il n'y avait pas d'avenir financièrement là-bas. Honnêtement, c'était dans ma tête, c'était incroyable. Je dis, mais c'est pas possible, elle fabule. Et ensuite, elle m'envoie une capture d'écran, en gros, expliquant qu'elle était partie. Et qu'il fallait rien dire, qu'elle était partie, que c'était compliqué, qu'elle était partie à l'étranger.
D'accord.
Donc ça,
voilà, elle n'a pas eu le fin mot de l'histoire, elle, la raison officielle, en fait.
Ah non, mais personne ne l'a vraiment eu. Enfin, on sait toujours. Enfin, j'emmènerai après t'expliquer, mais je veux dire, ça reste toujours très flou. Je veux dire, ça reste très flou. Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas? Je n'ai toujours pas de réponse à 100% sur certaines questions que je me pose encore.
D'accord. Donc, et selon toi, instinctivement, mis à part que pour faire ça, je pense qu'il faut avoir vraiment un dérèglement pathologique, on est d'accord. En tout cas, si on t'écoute, on te donne évidemment le bénéfice du doute et on est là pour ça, mais selon toi, avec ce petit recul que tu as et la souffrance que tu as encore, évidemment, et on est, voilà, on est loin de comprendre ce que tu vis, mais tu te dis que, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, à ton avis? Si tu devais émettre une possibilité, ce serait quoi, une hypothèse?
Alors, la possibilité que j'ai émise et que j'ai mis aussi sur Ça commence aujourd'hui à la télé, où je pense sincèrement, il y a plusieurs facteurs. Premièrement, tu m'entends?
Oui, bien sûr, je t'entends.
Oui. Premièrement, la mère de mon ex, donc mon ex-belle-mère, est morte en fin 2018, d'accord? Et elle a laissé en héritage à ses deux filles, donc à mon ex et à sa sœur, une maison. Déjà, il y a ça. Deuxièmement, je sais qu'elle cherchait absolument à se remettre en couple et qu'elle m'a blâmé nombre fois en me disant qu'elle n'arrivait pas à se remettre en couple avec des hommes sur Toulouse, parce que quand ils apprenaient son histoire, ils disaient qu'elle m'avait rendu homosexuel et qu'il ne voulait pas se sortir avec une femme qui avait un ex homosexuel.
D'accord.
Donc, il y avait ça, et donc il y avait cette envie obsessionnelle, j'ai envie de dire, parce que moi, elle m'en parlait régulièrement quand on parlait, parce qu'il y avait des moments où on parlait de tout et de rien pendant des heures ensemble, où elle me disait, j'ai vraiment envie de trouver quelqu'un, etc. Je lui disais, mais tu vas trouver, prends le temps. Voilà, moi, j'ai retrouvé quelqu'un, mais ça aurait pu prendre plus de temps que ça aussi. Enfin, ne saute pas dans les bras du premier venu, etc. Et en fait, elle voulait vraiment retrouver quelqu'un parce qu'elle avait besoin de quelqu'un dans sa vie. Chose que je comprends, et moi, dans ma tête, je n'espérais que ça, parce que je me disais, quand elle va se remettre en couple, elle va se calmer, si vous voulez. Elle va un peu mettre... Vous voyez ce que je veux dire? Elle va un peu mettre notre relation en arrière. parce qu'elle avait toujours
prendre du recul en tout cas.
Voilà, prendre du recul et puis voilà, commencer une nouvelle vie, etc. Donc j'ai moi je pense que ça a été ses motivations, puisque elle disait pendant les procès, j'en reviendrai après plus tard, qu'elle voulait rentrer pour sa famille, c'est complètement faux. Qu'elle voulait rentrer parce qu'il n'y avait pas de travail en France, c'est complètement faux. Ça, je pense que moi, personnellement, avec du recul, je pense que ce sont ses motivations, puisqu'elle s'est dit dans sa tête, j'ai une maison qui est là-bas, qui est vide, puisque son père était séparé de sa mère. Donc, la maison, ben, elle est vide, donc je peux y aller. Je n'ai pas de loyer à payer, je n'ai pas de charge. Elle a rencontré aussi un homme qui était d'origine des pays de l'Est également. Donc, voilà, elle s'est dit, je vais habiter là-bas avec mon copain, parce que j'ai appris après par le futur que ce fameux, son fameux compagnon avec qui elle est mariée maintenant était venu en France pour apparemment pour travailler. Donc, je veux dire, c'est qu'elle avait quand même en tête de ramener son compagnon ici en France pour travailler. Donc, encore une fois, comme je te dis, ce sont que des suppositions, parce que je n'ai aucune certitude, puisque j'ai appris que quelques semaines avant son départ, elle avait contacté une connaissance à moi en lui demandant du travail pour son copain. Donc, quand j'ai appris ça, je me dis, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que quelques semaines avant, elle était encore en train de se dire, je reste là.
Et se projeter.
Donc, voilà, je peux pas, j'aurais jamais le temps.
Au-delà de cette souffrance atroce qu'on ne souhaite à personne de ne pas avoir ses enfants, est-ce que le pire, c'est de rester sans revanche, de pas comprendre, en fait, la folie qui lui est passée par la tête?
Non, parce qu'en fait, je m'en fous complètement, je m'en fiche complètement d'elle, de ce qu'elle peut penser, des émotions qu'elle peut avoir. Moi, la seule chose qui m'importe, mon seul combat, c'est mes enfants.
Bien sûr, mais par rapport à tes enfants, excuse-moi, je te coupe, mais c'est par rapport à tes enfants, parce que c'est un acte quand même de folie d'avoir fait ça. C'est un acte...
Moi, ce que j'en veux, c'est ce qu'elle a fait à mes enfants, pas à moi.
Bien sûr.
Les conséquences que
ça doit avoir dans leur vie.
Alors, ça a déjà des conséquences, puisque quand on a réussi, du coup, quand j'ai réussi à avoir quelques contacts téléphoniques, parce que je n'en ai pas eu beaucoup, malheureusement, dont il y a des vocaux que j'ai, dont certains vocaux que j'ai postés sur ma page Instagram, où je me fais littéralement insulter par mes enfants, de connard, de pédé, je passe de tous les mots dans lesquels ils m'ont insulté. C'était au mois d'août, si je dis pas de bêtises, au mois de juillet, donc quelques mois après leur départ, hein, c'était pas longtemps après. Donc je sais très bien que mentalement parlant, il y a une aliénation énorme qui a été faite sur eux. Je sais qu'ils avaient interdiction de parler français entre eux, donc ils ne parlent plus français, puisque sur les derniers contacts que j'ai eus, il y a de ça plus d'un an et demi maintenant, ils ne me comprenaient plus quand je parlais en français, je parlais en anglais avec eux. Donc, il n'y avait plus d'échange en français. Donc, ça veut dire que là, un an et demi que je ne les ai pas vus ni parlés, ils ne parlent plus un mot de français. Donc,
excuse-moi, quand tu parlais à ton ex-femme et que tu lui demandais de revenir et d'avoir des droits de nouveau sur tes enfants, officiellement, elle te répondait quoi, en fait?
Alors, en fait, déjà, les échanges étaient très compliqués puisqu'elle m'avait bloqué de partout. C'est-à-dire, elle avait bloqué de WhatsApp, elle avait changé de numéro puisqu'elle est partie, elle a fermé son numéro français. Donc au début, j'avais que des contacts par mail. Mm-hmm. Il faut savoir que j'ai fait très attention à ce que je disais et à l'émotion sur le moment, tellement qu'on est dans, tu es dans l'émotion pure. Et tu peux faire de grosses erreurs juridiquement parlant, dire des choses que tu penses peut-être, mais qu'il ne faut pas dire. Donc les premiers échanges qu'on a eus ont été par mail, avec la validation de mes avocats.
Mm-hmm.
Donc, je lui ai envoyé un mail en lui expliquant que je n'étais pas du tout pour le départ, que j'étais contre. Donc, on n'a jamais vraiment eu d'échange. On a eu des échanges en SMS beaucoup plus tard dans la procédure, quand j'ai eu son téléphone, si tu veux, son nouveau téléphone slovaque. Et là, c'était... Je n'ai jamais réussi à avoir une conversation. La seule chose qu'elle voulait me dire, c'était que c'était mieux pour nos enfants qui vivent là et que j'accepte la situation et qu'elle me les enverrait toutes les vacances scolaires. Voilà son arrangement, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun... Je n'ai jamais réussi à avoir une conversation avec elle en deux personnes. Vraiment, ça a toujours été inter-avocat ou par SMS.
C'était trop dangereux pour toi aussi d'y aller là-dedans parce qu'elle aurait pu tourner et ne plus du tout.
C'est tout à fait ce qu'elle a essayé de faire. Alors, je te dirais la vérité, c'est qu'elle n'a eu aucun filtre. Je me suis fait insulter de tout ce que tu peux imaginer par message pendant la procédure. C'est-à-dire qu'elle était tellement sûre de gagner, qu'elle était tellement sûre d'être dans son droit, qu'elle, elle n'avait aucun problème. Moi, par contre, j'ai fait très attention parce que pour moi, c'était, même si j'en pensais encore une fois pas moins, mais pour moi le plus important, c'était et ça restera mes enfants. Donc par rapport à mes enfants, quand je leur parlais, je ne disais rien sur leur mère, je ne parlais pas de leur mère, j'essayais juste de profiter du moment, malgré que ce soit très dur quand tu te fais insulter par tes enfants, raccroché au nez, que tu entends ton ex derrière en train de leur dire dis-lui ça, raccroche. Voilà, c'était très compliqué pour moi parce que ça te prend dans les tripes en fait d'entendre tes enfants dire ça, mais j'ai jamais vraiment eu d'échange avec elle, on va dire sans filtre.
Ouais, j'ai compris. D'accord. Voilà. Et ça veut dire donc elle
les envoyer. Excuse-moi de t'interrompre, j'ai essayé une fois de lui envoyer un message, je lui ai dit écoute, est-ce que tu veux qu'on se pose, qu'on s'appelle et qu'on en discute? Elle n'a pas voulu.
Voilà. Ouais, forcément. C'était trop dangereux pour elle, ça allait la remettre en question et elle avait peur à perdre de perdre le contrôle, forcément. Et
je pense.
Mais c'est sûr. Et du coup, toi, donc on passe de je te les envoie pendant les vacances à rien du tout. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe entre ces deux-là?
Alors en fait, ce qui se passe, donc j'explique brièvement pour que les gens qui écoutent comprennent. Donc suite au départ de mes enfants, je fais toutes les procédures, que ce soit en France et en Slovaquie. Après avoir enquêté pour savoir où elle était, j'ai fini par savoir qu'elle était en Slovaquie, du coup dans son pays d'origine, à son adresse, à sa maison de famille, donc voilà, à la frontière entre la Slovaquie et la Hongrie. Donc il faut savoir que comme on est en Europe et que mes enfants sont français, mais que la mère est ressortante d'un autre pays. Quand les enfants sont enlevés d'un endroit à un autre, en Europe en tout cas, ou dans les pays qui sont adhérents à cette convention, il y a ce qu'on appelle la convention de La Haye. C'est-à-dire que même si mes enfants sont français, parce que moi, dans ma tête d'innocent et de naïf, quand j'ai entendu tout ça, dans ma tête, je me suis dit, bon, dans un mois, la police, même pas, il n'y a pas la police, vont aller la chercher, vont prendre les gosses et les ramener. Ça ne se passe pas du tout comme ça, malheureusement. Mm-hmm. Ça ne se passe pas du tout comme ça. En fait, il y a une procédure à faire dans le pays, entre guillemets, qui détient les enfants, parce que c'est vraiment de la détention illégale, hein, il faut dire ce qui est. Il y a un procès qui doit se faire. Il y a un procès qui a été fait aussi en France. Donc, pendant ce procès, en France, ça a été très rapide. La France m'a donné la garde de mes enfants au vu du danger de la situation, puisque malheureusement, ce que j'explique moi aux gens, c'est que moi, je n'ai jamais été pour ça. Sauf que quand vous avez des parents qui sont, et je dis bien parents, parce que ça peut être autant une mère qu'un père, bien qui sûr. Sont des dangers autant psychologiques, parce qu'on ne parle que des dangers physiques, du viol, de l'agression physique, mais c'est autant marquant une violence psychologique sur un enfant. Et ces parents-là, je dis bien parents, parce que je ne vise ni que les mères ni que les pères, ne sont pas aptes à éduquer et faire grandir leurs enfants dans un environnement sain.
Bien sûr.
Le juge a statué que je vais récupérer la garde exclusive de mes enfants, ce qui est tout à fait normal au vu de la situation et du danger de les re-kidnapper. Et du coup, en Slovaquie, on devait statuer si oui ou non, mes enfants encouraient un vrai danger pour rentrer sur le territoire français. Mm-hmm. Donc, c'est à cette époque-là, donc ça, je te parle de ça en 2020, parce que les deux procédures ont commencé ensemble. La procédure en France a duré un mois, la procédure en Slovaquie a duré un an et demi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je suis tombé sur un ramassis de gens incompétents, dont la juge, hein, je veux vraiment le dire, parce que ça, il faut vraiment que j'en parle, parce que c'est quand même... On a eu plus de 12 reports d'audience. C'est-à-dire que chaque fois, moi, j'ai dû me déplacer là-bas en voiture, parce qu'on m'a demandé de venir, donc j'y suis allé en voiture. Ah, d'accord, ouais. Je suis parti. On est parti là-bas en voiture au mois de juin, c'était, parce que ce qui est normal, la juge a demandé à me voir, parce que je suis le père, et elle m'a dit, je veux entendre le père parler devant la cour, etc. Donc, je me suis déplacé, j'ai fait 20 heures de voiture aller, 20 heures de voiture retour, 40 heures. Parce qu'il n'y avait pas d'avion, on était en pleine sortie de Covid. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles de comment c'était.
Bien sûr.
Voilà, il y avait des passes à faire, des masques, il y avait plein d'autorisations. Enfin, c'était un parcours du combattant. On a réussi à y aller. Et là, cette période-là, donc là, je te parle de ça en juin, j'ai eu une audience. Donc, j'ai pu voir mes enfants pendant une heure. Et c'est la dernière fois que je les ai vus. C'est la photo de profil que j'ai sur Instagram. C'est la dernière fois où j'ai pu voir mes enfants. Et dans pendant cette rencontre qui était très compliquée parce que j'étais déchiré entre j'avais mon ex qui était au milieu parce qu'elle était présente, j'avais son mari, enfin son futur mari à l'époque qui était à côté de nous aussi, mm-hmm. Et j'avais mes enfants au milieu et mes parents avec moi et ma sœur. Donc je te dis même pas l'ambiance que c'était. Moi, j'étais que là pour mes enfants et la juge avait demandé à mon ex expressément de me laisser les voir un moment. Donc elle m'a autorisé une heure. Et quand je te dis une heure, c'est une heure montre en main. Et suite à ça, on a failli tomber dans un guet-apens puisque son mari a essayé de nous tomber dessus avec d'autres personnes.
Attends, les enfants, quand tu les as vus, ils t'ont dit quoi?
Rien, je n'ai parlé de rien avec eux, je leur ai fait des bisous, j'ai joué avec eux, j'ai rigolé, j'ai parlé de rien. Ce que je voulais pas. Ça m'a tellement fait mal au cœur de les voir dans une situation comme ça. Je leur ai rien dit, je leur ai juste dit que je les aimais. Ils ont vu leur grand-mère, ils ont vu leur père, ils ont vu leur grand-père, ils ont vu leur tante. C'est tout ce que j'ai fait. Ça a duré une heure. En une heure, malheureusement, t'as le temps de rien.
Tu les sentais comment ?
Perturbé.
Mais en bonne santé quand même, enfin,
Non. Mentalement, non, pas du tout.
D'accord.
Non. Et ça appuie les rapports des assistantes sociales qui ont bien stipulé que mes enfants étaient psychologiquement traumatisés, que ma fille était pas bien du tout. Ma fille a doublé en volume, tu vois, alors que sur quelques mois, c'est pas normal parce qu'elle était pas bien. Et mon fils se faisait pipi dessus la nuit, par exemple. Et elles ont expliqué dans des rapports psychologiques que c'était signe, en fait, de perturbation psychologique, ce qui était tout à fait de choc psychologique, de trauma, de traumatisme, voilà exactement
bien
le
sûr,
mot.
Bien sûr.
Traumatisme. Ouais. Donc ça, c'était en juin. Donc cette procédure-là était supposée durer quelques mois. Donc pendant toute cette période-là, ça a duré, au lieu de durer quelques mois, ça a duré un an et demi. C'est-à-dire que quand moi je suis reparti du pays, d'accord, en juin, il devait y avoir une ou deux audiences. Donc le dossier devait être clos dans l'été, si tu veux. Ça a duré jusqu'en avril d'après, parce qu'il y a eu 12 reports d'audience. Quand je dis 12 reports d'audience, c'est-à-dire on a eu le droit à voir, et tu vas pas en croire de ce que je te dis, hein, parce qu'on dirait un film.
Ouais, vraiment, ça l'est déjà.
On a eu une alerte à la bombe dans le tribunal. Audition, audience reportée. On a eu l'avocat qui a oublié le rendez-vous. On a eu mon ex qui n'a pas pu se présenter. On a eu ma fille, parce mon ex a demandé à ce que ma fille soit entendue pour savoir si ou non elle voulait rentrer dans son pays. Ça a été repoussé parce qu'elle était malade ou elle ne pouvait pas venir. Ensuite, on a eu la juge qui a eu le Covid, l'assistante de la juge qui a eu le Covid. Et pour terminer, il y a eu d'autres choses encore dont j'oublie peut-être, mais le pire de tout, on a eu la juge qui a été arrêtée en garde à vue pour corruption.
Wow.
C'est-à-dire que là, je suis en pleine procédure. J'attends le résultat pour récupérer mes enfants. Je reçois un mail de l'avocat en me disant « Yanis, Monsieur Talbi, pardon, votre juge a été mis en garde à vue pour suspicion de corruption. » Et là, tout s'arrête. Parce que là, il n'y a plus de juge, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que là ça a duré des mois, on ne savait plus quoi faire.
Tous les gens sécuritaires, en fait, ils sont devenus dangereux, en fait.
En fait, c'est juste que la procédure a duré très longtemps. Et la juge est revenue sur le dossier après. En fait, elle a été disculpée apparemment. Je ne veux pas savoir le fond de l'histoire. Bon, elle a été disculpée. Elle est re-rentrée dans le dossier, mais ça a duré des mois. Donc, une procédure qui devait durer quelques mois a duré un an et demi. Donc, en fait, en avril, pendant toute cette procédure, comme elle savait qu'on était devant les juges, j'arrivais difficilement à parler à mes enfants. D'accord ? J'arrivais à les avoir de temps en temps. Elle avait ordre de me laisser leur parler trois fois par semaine. Ce n'était jamais respecté. Je les avais une fois par semaine. Et en général, c'était un ramassis d'insultes et de on va manger, on a des devoirs à faire, on va jouer. En fait, en gros, je les avais, au lieu d'avoir une demi-heure, je les avais peut-être 2 ou 3 minutes par semaine.
D'accord.
Quand je les avais dans la semaine une fois.
Donc ça s'est passé de plus en plus, en fait.
Ça s'est passé de plus en plus. Plus on avançait dans la procédure, plus ça s'est passé. Mais elle me laissait encore un peu les avoir. Jusqu'au jour où, en 2021, je gagne la procédure en avril. Finalement, et là, elle fait appel. La juge lui dit, vous devez rentrer sous un délai de 48 heures ou 72 heures. Et là, elle refait appel de la décision de justice. Et on a la décision finale au mois d'août qui confirme la première décision. Non, les enfants de M. Talbi doivent rentrer en France, doivent être ramenés dans leur pays, avec ou sans la mère, ça c'est à son bon vouloir, mais ils doivent rentrer dans leur pays d'origine. Vous avez 72 heures pour les ramener. Ça, c'était en 2021. Depuis 2021, je n'ai plus aucune nouvelle. C'est-à-dire qu'elle a disparu complètement dans la nature depuis 2021.
Et la justice dans tout ça ?
Alors, la justice maintenant. En France, quand je suis allé porter plainte pour le fameux jeudi 5 mars, quand j'ai appris que mes enfants étaient partis, la police m'a rionné. Donc ça, c'était la première fois, ils m'ont pas cru. Ensuite, quand je suis allé porter plainte. Ensuite, je suis allé porter plainte du coup le premier week-end de non-présentation des enfants. Je sais pas si tu te rappelles que c'était le premier week-end de la reprise des vacances scolaires. Tu te rappelles? Je te disais qu'il y avait le premier week-end.
Oui.
Et comme moi, c'était un jeudi, je ne pouvais pas porter plainte avant le vendredi 18h01.
D'accord.
Qu'elle était supposée me les passer à 18h.
Oui, bien sûr. Donc, tu devais attendre la date. Okay. Et donc.
Voilà. Parce que pour eux, elle pouvait toujours être là. Et donc j'ai porté plainte. Donc, l'enquête a pris beaucoup de temps pour statuer qu'elle était bien partie. J'ai fini par passer devant le juge des affaires familiales pour récupérer la garde de mes enfants, comme je t'avais dit plus tôt. Suite à ça, on devait attendre le résultat, le verdict de la Slovaquie qu'on a attendu. Et quand on l'a attendu, bien évidemment, ben, plus de réponse de sa part. Donc, on a mis une exécution forcée de la décision en Slovaquie pour qu'ils aillent récupérer mes enfants. Et en même temps, en France, j'ai porté plainte pour non-présentation d'enfants encore une fois.
D'accord.
Ça a été classé sans suite en France. Ça a été classé sans suite par le procureur parce que je demandais que mes enfants soient inscrits aussi. On a demandé qu'ils soient inscrits au fichier des personnes recherchées par France, mais Schengen. Ça a été refusé la première fois. La Slovaquie a fait soi-disant des recherches sur mes enfants. Donc, ils ne sont plus à l'école où ils étaient pendant la procédure. Ils ne sont plus à leur domicile. Ils n'ont plus de numéro de sécurité sociale en France. Il n'y a plus de traces d'eux en France. On a appelé son mari. Son mari dit d'être séparé de la mère et que la mère est repartie en France alors qu'elle n'est pas revenue en France. Donc, le mari dit ne plus être en contact avec la mère. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, si tu veux. En fait, on n'a pas de résultat. Et en France, il se passe rien. En France, il se passe rien parce qu'en gros, la France me dit oui, mais vos enfants sont à l'étranger, ils sont pas là, nous on peut rien faire.
Et ben, t'as si, déjà vous pouvez été contacté du coup les services de l'État parce que tu médiatises, mais du coup, est-ce que t'as essayé de contacter vraiment l'Élysée et de raconter ton histoire?
Alors l'Élysée, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là. Sincèrement, je ne suis pas arrivé encore à ce niveau-là. Mais je ne suis pas sûr que ça fasse bouger les choses, mais je ne sais pas. Je sais que je vais faire une pétition par rapport à ça, puisqu'on m'a contacté pour faire ça, donc je vais le faire.
Bah
j'ai
oui.
une pétition à faire aussi
en fait,
par rapport à ça.
Ça monte plus haut que ce que tu es en train de faire, tu vois.
C'est
parce qu'en fait, l'idée, c'est que je trouve que c'est très beau de médiatiser. Et attention, il suffit, comme tu dis, d'une personne qui a une famille, enfin quelqu'un dans une famille ou quoi, ou qu'est-ce. Pour t'aider ou pour essayer de débloquer la situation, mais à ton petit niveau aujourd'hui, le problème c'est que tu ne peux rien faire, quoi. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est comment tu tiens, en fait. C'est qu'est-ce qui te fait tenir en vrai?
Comment je tiens? On va dire que ce que je tiens, c'est le combat. C'est le combat de les récupérer. C'est l'espoir de les revoir un jour, de pouvoir essayer de réparer ce qui s'est passé, même si je sais que ça va être très, très compliqué psychologiquement pour mes enfants, parce que c'est traumatisant, surtout qu'ils étaient jeunes. Ça a commencé très jeune. Quand ma fille est partie, elle avait 7 ans, mon fils en avait 4. Donc, c'est jeune, quoi. C'est traumatisant. C'est la période de l'enfance qui est très traumatisante pour les enfants. Donc, ce qui me tient, c'est ça, c'est de pouvoir leur donner une seconde vie, on va dire, une nouvelle vie, et puis qu'ils soient heureux, quoi, qu'ils soient bien dans leur vie, qu'ils soient épanouis, en fait. Mais après,
t'as déjà
sinon,
pensé,
à part ça...
excuse-moi, pardon, vas-y.
Non, non, vas-y.
Je te disais, est-ce que t'as déjà pensé à prendre une valise, partir là-bas, faire une pétition pour, pétition, pardon, un appel aux dons pour, trouver un détective privé et t'aider?
J'ai déjà fait. J'ai déjà. Après, il y a des choses dont je ne peux pas spécialement parler publiquement.
Bien
parce
sûr,
que voilà. Ouais. Donc, mais j'ai déjà fait beaucoup de choses.
Et c'est en cours? Enfin, c'est en cours. Est-ce que tu penses que ça peut prendre de l'ampleur dans le bon sens?
Oui et non.
D'accord. Bon.
La seule façon qui pourrait m'aider vraiment sur ça, maintenant pour moi, ce serait d'avoir la France. En fait, on a ce qu'on appelle Interpol. On peut trouver un terroriste dans un trou.
C'est
on peut
ça.
Trouver un criminel dans un trou. On peut la trouver comme on veut. Mes enfants sont français. ils doivent rentrer dans leur pays.
C'est ça.
Ils sont ressortissants français, leur père est français. Certes, leur mère n'est pas française, mais ils sont nés en France, ils sont nés à Toulouse. Donc maintenant, ce que j'attends, moi, c'est que l'État, en fait, assume et prenne enfin, prenne vraiment mon affaire au sérieux, parce
Bien
qu'on
sûr.
On ne me prend pas au sérieux, et que Interpol peut trouver n'importe qui. On a tous des téléphones, on a tous des ordinateurs, on a tous Internet. C'est très facile, sauf que moi, j'ai des moyens limités. Financièrement, je ne suis pas un puits, donc je ne peux pas, en fait, il y a des choses que je ne peux pas faire, que je ne suis pas dans la capacité de faire, que les gouvernements peuvent faire. Tu vois ce que je veux dire? Moi, mon espoir, il est un peu là aussi. Je dis pas que là, parce que je fais des choses de mon côté aussi, mais bon, voilà.
Et à notre petit niveau, nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour t'aider? Alors, tu peux donner déjà ton Insta, tu peux peut-être
Alors, voilà.
Partager des choses. Qu'est-ce
C'est
qu'on
ça.
Peut faire?
Alors, à votre... Au niveau, en fait, des personnes autour de moi qui me suivent, qui me soutiennent, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. C'est premièrement de partager la première vidéo que j'ai faite et les vidéos, on va dire, importantes que je ferai, mais surtout la première vidéo où mon histoire est expliquée en quelques minutes avec des photos de mes enfants. Ça, c'est super important parce que ça peut être, voilà, il suffit d'une personne qui les a vus dans un aéroport, qui les a vus en vacances, ou que, s'il faut, elle se cache en France. Je ne sais même pas où elle est, parce qu'elle peut être restée dans son pays, comme elle peut être dans un autre pays à côté. On
Bien
a
sûr.
Pensé à la Hongrie, à la Pologne, à la République tchèque, ou elle peut être en France, ou elle peut être en Allemagne. Je ne sais pas où elle est. Il suffit d'une personne pour m'aider à la localiser. Donc, plus il y aura de monde qui verra cette vidéo avec la photo de mes enfants, plus on aura des chances, plus j'aurai des chances de les retrouver. Et après, du coup, cette vidéo-là, ben, si les gens veulent voir, avoir plus d'informations sur mon profil, j'explique, je poste des choses, etc. Il y aura plus d'infos. Mais ça, c'est super important. Aussi, si on voit quoi que ce soit, moi, j'ai pas mal de personnes qui m'ont contacté en me disant, ah ben, je crois que j'ai vu, est-ce que, même si les gens pensent que ça peut être bête, que ça peut être une erreur, je m'en fiche, envoyez toutes les informations que vous avez parce qu'on ne sait jamais. Et la troisième chose qui peut être intéressante pour moi, c'est des contacts dans les pays de l'Est, c'est-à-dire Slovaquie, Hongrie, Pologne. Voilà, ça peut être important pour moi, des gens qui parlent la langue, qui connaissent du monde là-bas sur place, que ça peut aussi beaucoup m'aider. Voilà les trois choses qui peuvent m'aider, en fait, par rapport à mon combat, je pense.
Alors,
peut-être que j'en oublie, mais je pense que c'est déjà pas mal.
D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup… Comment faire, donc déjà, ton Insta, et où est-ce qu'on peut trouver la vidéo sur ton Insta?
Alors, mon Insta, il est très simple. Il s'appelle Trouvons Lana Liam.
Mm-hmm.
Je fais quelque chose de très simple. Ma vidéo, c'est la première vidéo où je suis tout en noir qui est épinglée sur mon profil, où il y a mes enfants en couverture dessus. Donc, c'est la première vidéo qui est épinglée sur mon profil. Vous pouvez pas la rater. Et elle dure 3 minutes. Et c'est… Voilà, je me présente et j'explique mon problème et je demande de me partager pour médiatiser. Et la raison pourquoi je parle de la médiatisation, c'est qu'il y a le côté atteindre le gouvernement, mais il y a aussi le côté atteindre les gens, et que il y a peut-être des gens qui connaissent quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Des fois, ça peut aller comme ça, boule de neige.
Complètement d'accord. Et puis des gens qui sont haut placés aussi, pourquoi pas.
C'est ça.
Je pense que
tout à fait.
On est d'accord.
Tout à fait.
Et je voudrais savoir aujourd'hui comment tu te projettes dans 10 ans. Est-ce que tu m'as dit au début que tu gardais espoir? Le combat, il va se mener comment là, à partir de maintenant, dans ta tête?
Ben, on va dire que dans 10 ans, j'espère avec mes enfants, puis en plus dans 10 ans, mes enfants seront grands, donc j'espère les avoir récupérés avant ça. Si je n'arrive pas à les récupérer, j'ai un petit espoir dans ma tête de me dire que quand ils vont être ados rapidement, parce que ma fille a bientôt déjà 10 ans, ils vont avoir des réseaux sociaux, je vais peut-être pouvoir arriver à les recontacter comme ça. C'est un peu un espoir qui, malheureusement, je n'ai pas envie d'y penser parce que c'est trop dur pour moi de me dire que je vais encore attendre autant d'années parce que je retrouverai pas mes enfants que je connais moi, s'ils seront complètement changés, une autre culture, etc. Ça sera très compliqué pour moi et on pourra même pas, enfin, on n'a même pas de langue, enfin, si, à part l'anglais, mais je veux dire, même leur langue natale, ils la comprendront plus. Mais c'est mon, entre guillemets, voilà, c'est-à-dire que si j'arrive pas à les retrouver là, ben, je me dis, par espoir, peut-être que je les retrouverai quand ils seront un peu plus grands. C'est un peu l'espoir que je me dis dans ma tête, mais.
Bien sûr. Une fois qu'ils auront
en fait,
leur indépendance.
Ce que j'ai peur, moi, c'est qu'elle est tellement manipulatrice qu'elle est capable de dire à mes enfants que je suis mort et que j'ai eu un accident et que leur nouveau père, c'est son mari. Parce que c'est ce qu'elle a fait. Elle n'a pas dit que j'étais mort, mais mes enfants m'appelaient par mon prénom. Ils ne m'appelaient plus papa. Ils me disaient non, mon papa, c'est Zoltan. Donc,
oui, mais tu
ça,
sais,
c'était…
les enfants, ils n'oublient jamais, c'est viscéral. Donc, je pense que quoi qu'il arrive, après, ça reviendra en eux, tu vois. C'est ancré. Il n'y a pas plus fort qu'un papa et qu'une maman. Donc, quoi qu'il arrive, un jour, ils seront en quête d'identité, en espérant que tu le retrouves plus tôt. Et je te souhaite de tout cœur, vraiment. Enfin, moi, j'espère vraiment que tu auras et les moyens énergétiques et financiers de pouvoir retourner dans la ville où ça s'est passé, enfin où ils étaient, et partir de là-bas et prendre un détective privé professionnel qui puisse vraiment t'aider, quoi, en fait, parce que je pense qu'il y a que ça, hein. Enfin, faut aller là-dedans, parce que quand le gouvernement ne nous aide pas, aide-toi, le ciel t'aidera, j'ai envie de te dire, hein. Donc en vrai, c'est ça, quoi.
C'est ça.
Tes enfants, c'est des enfants comment, de caractère, de base?
Alors, adorable, enfin en tout cas quand ils sont partis jusque-là, adorable. Mon fils a été très dur ces premières années par rapport à ma fille qui était un bébé très calme, très facile. Mon fils a été très très dur. Et puis là, à partir de 3 ans, il a commencé à grandir et à être différent et à être drôle, et à être rigolo. Et franchement, honnêtement, c'est pas parce que c'est mes enfants, encore une fois, genre, je pense que tous les parents disent ça, mais franchement, ils étaient géniaux. Je pouvais les amener partout.
Ils le sont encore, sûrement. Hein.
Oui, quand je dis ils étaient,
bien parce sûr, que mais je sais la vie avec toi.
Que je ne les ai pas eus avec moi, je ne sais pas bien comment sûr. Je vais les retrouver. Je sais très bien quand je vais les retrouver. Ça va être un très, très gros, un gros travail, parce qu'ils ne seront pas comme je les ai laissés. Ça, je le sais. C'est même si on me dit non, c'est obligatoire. Donc, moi, en tout cas, la dernière fois que je les ai eus, ils étaient super. On allait au resto, ils étaient contents. Ils ne râlaient pas. Enfin, ils n'avaient pas de caprices. Franchement, ils étaient adorables. Vraiment toujours content, franchement adorable. Je peux pas dire que à l'école ça se passait bien. Il y a aussi ça peut aller à l'école, franchement ça se passait bien, on n'avait pas de problème. Mon fils était un peu caractériel au début, et puis la prof elle a remis des cares, elle lui a remis des règles par rapport à l'école, parce que moi quand je suis parti, mon fils était très jeune, il avait 1 an, donc ça a été un peu aussi compliqué pour elle. Et puis parce que moi j'étais, il y avait plus la présence paternelle avec elle tous les jours comme j'étais au début, comme j'étais avec ma fille. Donc c'est vrai que moi j'étais obligé des fois de lui dire. Et puis quand je les avais à chaque fois, je leur disais écoutez votre mère, parce que c'est vrai qu'avec leur mère elle me disait qu'ils n'écoutaient jamais, qu'ils faisaient plein de bêtises, qu'ils étaient infernal avec elle. Moi pas du tout, ils étaient mais adorables. À chaque fois je leur disais écoutez votre mère, c'est votre mère, il faut la respecter. Tu vois, je l'ai toujours vraiment, je n'ai jamais critiqué, même avant je n'ai jamais critiqué leur mère, vraiment. J'ai toujours voulu que, même si j'avais ce que je pensais d'elle, mais je voulais toujours qu'ils aient l'image de leur mère et de leur père. Pour moi, ça, c'est vital pour un enfant. Et je n'ai jamais voulu interférer là-dedans.
Et toi, tu étais un papa comment? Enfin, tu es un papa comment?
Franchement, gentil, quoi. Enfin, moi, je ne suis pas compliqué. Hein. Alors, je vais être dur sur certaines choses. C'est-à-dire ce que je n'aimais pas, c'était tout ce qui est caprice, etc., les enfants qui se roulent dans les magasins, ça c'est quelque chose que je n'accepte pas. Voilà. Mais après, honnêtement, super cool sur plein d'autres trucs, mais sur ça, c'est-à-dire que pour moi, en fait, il y avait un million de choses. Quand on mange à table, on est assis, on n'est pas levé, on ne sort pas de table, on revient. Tu vois, j'ai des règles comme ça de bon savoir-vivre, entre guillemets, qui m'étaient importantes. Sinon, à part ça, on rigolait, on dansait ensemble, on dessinait, on faisait... on allait au parc ou au truc, on faisait plein d'activités différentes, on rigolait beaucoup, on regardait des films ensemble, je regardais leur dessin animé préféré, mais La Reine des Neiges, j'ai dû la voir un million de fois, Cars, j'ai dû le voir un million de fois aussi pour mon fils, donc j'essayais vraiment qu'il soit content quand il soit avec moi, mais en même temps, quand même d'avoir le rôle un peu du père, c'est-à-dire de mettre quand même aussi des règles dans certaines choses que leur mère avait du mal à faire.
D'accord. Et aujourd'hui, du coup, si jamais on doit te demander, évidemment, à part avoir des traces, mais qu'est-ce qui pourrait te redonner de l'énergie, ce serait quoi?
Déjà qu'on arrive à localiser dans quel pays elle est.
D'accord.
Déjà ça, pour moi, ce serait déjà une belle étape, une belle avancée de me dire, elle est dans ce pays-là. Déjà, je sais, parce que là, je ne sais plus où elle est. Donc, j'ai essayé de rentrer en contact avec son père, avec mon ex-beau-père. Qui fait semblant qui essaie de noyer le poisson dans l'eau, qui sait très bien où sa fille se trouve, mais qui ne veut pas m'aider.
Et parce que ses parents, ils sont où? Enfin, sa famille?
Alors, en Slovaquie. Enfin, son père habite en Slovaquie, sa sœur, je ne sais pas trop.
Ouais, et par lui, évidemment, si on envoie un détective privé, on peut peut-être aussi le suivre. pense que il y a de quoi faire en fait. En vrai, il y a quand même des gens qui pourraient.
Après, je sais pas où il habite son père. Je sais pas où il vit donc.
D'accord. Ok.
Je sais pas. Donc, okay. Mais oui, il y a des choses faisables après. Hein. De toute façon, au bout d'un moment, comme on dit, je vais prendre ma voiture et je vais aller là-bas et je vais aller faire mon enquête tout seul. Hein. C'est sûrement comme ça que ce qui va se passer.
Je pense aussi, c'est ce que je te souhaite. Moi, je te souhaite du fond du cœur de trouver encore l'énergie, la force, les idées et l'envie. Je pense que ça partira pas, mais je te souhaite vraiment d'essayer d'attaquer plus haut en fait maintenant. Et de faire appel au gouvernement, quoi, j'ai envie de te dire. Parce que c'est les seuls qui vont pouvoir t'aider. Hein. Tu sais, parfois, quand tu.
C'est ça.
Avec les pétitions, avec les médiatisations, etc., je pense que voilà, ça va bouger. Il n'y a pas de raison. Je voudrais te poser une dernière question que je pose à tout le monde qui est vraiment dans le feeling de la paternité pour le coup. C'est quoi pour toi un bon papa, un beau papa, vraiment?
Ben moi, je vais te dire quelque chose de très simple. Pour moi, il n'y a pas de définition d'un bon papa ou d'une bonne maman parce que la parentalité ne s'apprend pas, il n'y a pas de règle de parentalité. Pour moi, un bon père ou une bonne mère, c'est une personne qui arrive à voir qu'est-ce qui rend son enfant heureux et qui le pousse à être heureux et qui le pousse à faire ce qu'il aime et que son enfant soit heureux et épanoui dans sa vie. Ça s'arrête là. Il n'y a pas après de règles précises, il n'y a pas de... Voilà, pour moi, ça ne s'écrit pas. C'est vraiment rendre ton enfant heureux, qui peut s'adapter dans la société et qui soit bien dans sa vie et qui soit voilà, ouvert d'esprit, qui puisse faire ce qu'il veut. Pour moi, c'est ça. Un bon père ou une bonne mère, c'est arriver à faire grandir cette page vierge en quelque chose de heureux et qui soit content dans sa vie. Quand j'entends toutes ces histoires d'enfants qui se font jeter de chez leurs parents parce qu'ils sont homosexuels, entre parenthèses, que ça me concerne quand même, tu vois.
Oui, bien sûr.
De toutes ces histoires-là, je me dis, voilà, enfin, tant que ton enfant est heureux dans sa vie, c'est voilà, qu'il est heureux.
À
c'est,
sa place.
C'est tout ce qui importe. Voilà.
Tout à fait.
Pour moi, c'est ça.
Bah, écoute, la seule chose que je peux te souhaiter, c'est de garder le cap, de garder la force et de continuer. Et la seule chose dont je rêve pour toi, Yanis, c'est qu'on se retrouve dans un podcast avec tes enfants qui puissent raconter voilà, l'histoire. Et je vais faire un maximum pour partager au plus grand nombre, je te le promets. Et puis, tu nous tiens au courant et dès que tu as besoin, on relayera. Et je te souhaite vraiment, vraiment de garder l'énergie au fond de toi et cette douceur et cette bienveillance qui te colle à la peau. Parce que je pense que tes enfants en auront besoin quand ils vont te retrouver, comme on dit, si Dieu veut, je l'espère. Vraiment de tout faire pour toi. Voilà.
Prends soin
de toi aussi. Ne t'oublie
Merci
pas.
Merci beaucoup.
Vraiment.
Merci.
Et j'espère à très vite pour des bonnes nouvelles et des grandes nouvelles surtout. Voilà.
J'espère aussi.
On croise les doigts. Et on
Merci
pense
beaucoup.
À toi. Allez, je t'embrasse.
Merci.
À très vite.
Merci. Merci, moi aussi.
À bientôt sur La Voix des Mamans. Exploring all your borders. Now this failing love can fly.